Je suis très heureux de me retrouver ici dans votre bonne ville de Charleroi, heureux, sensible à l'honneur qui s'attache à l'invitation, de me retrouver pour ces 5 journées, cette série de rencontres, d'études et d'évangélisation sur le thème qui a été proposé « J'étais aveugle, maintenant je vois ». Je ne m'allonge pas dans mes remerciements, notre rencontre risque d'être un peu longue et j'aimerais entrer tout de suite dans le vif du sujet. Devant moi, j'ai un livre qui est la Bible, je crois qu'elle est la parole de Dieu. Je n'ai pas le temps de dire pourquoi je crois maintenant qu'elle est parole de Dieu, livre inspiré d'en haut, mais j'y crois et je voudrais vous extraire quelques textes. Nous allons parler des aveugles du Nouveau Testament. Et j'en sélectionne 3. Le premier, je le trouve dans l'Évangile de Marc au chapitre 8 et au verset 22, où je lis ces paroles, chapitre 8, verset 22. « Ils se rendirent à Bethsaïda, et on amena à Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. » L'aveugle de Bethsaïda. Dans le même Évangile de Marc au chapitre 10, cette fois-ci, je vous lis à partir du verset 46, ou même le verset 46, je lis qu'ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Et puis je passe au Saint-Évangile de Jean. Et là, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 9, nous en parlerons plus longuement le dernier soir, au chapitre 9, verset 1er, je lis que Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » C'est dans le pays de Gex, à Ferney-Voltaire, que régnait quasi en souverain Voltaire, l'un des plus grands esprits de son siècle. Voltaire, l'athée, qui était hanté par l'idée de Dieu et qui a dit un jour « L'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est point d'horloger ». Voltaire se promenait dans son parc, et avisant un jeune garçon, il lui dit, « Vois-tu toutes ces pommes sur cet arbre? Eh bien, elles sont à toi, si tu peux me dire où Dieu est. » Le jeune garçon fut interloqué pendant quelques instants, mais avec vivacité, il répondit, « Et vous, monsieur, pouvez-vous me dire où Dieu n'est pas ?» Voltaire s'éloigna à grandes enjambées, laissant derrière lui un jeune garçon qui était loin de se douter qu'il venait de triompher d'un des plus grands esprits de son siècle. Ce que Voltaire venait d'entrevoir à ce moment de sa vie, c'est qu'en fait, en posant la question, il s'était conduit comme un aveugle, car il n'avait pas saisi ce que dit la Bible. Dans Romains chapitre 1, verset 20, « Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu dans les choses qu'il a créées. » Mais nous aussi, À des degrés divers, nous sommes aveugles jusque dans les choses matérielles. C'est ainsi que, par exemple, il a fallu attendre le XXe siècle pour comprendre une parole de la Bible qui affirme, dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11, qui affirme que les choses qui se voient n'ont pas été faites à partir de choses visibles. Cette affirmation a pu paraître erronée pendant des millénaires, mais elle a pris toute sa valeur devant la science moderne, car nous savons depuis la célèbre équation d'Einstein que la matière que l'on voit n'est que la forme visible de l'énergie invisible. Par exemple, du fer, de la pierre, c'est tout simplement de l'énergie invisible matérialisée. Elle peut disparaître et redevenir énergie. Et puis, la substance que nous voyons est composée de molécules que nous ne voyons pas, qui elles-mêmes sont composées de particules de plus en plus petites, qui ne se laissent voir par aucun appareil aussi perfectionné soit-il. Leur énergie prouve leur existence, et seul leur nombre phénoménal les rend visibles à nos pauvres petits yeux de taupe. Lorsque j'étais jeune, j'étudiais tout seul dans mon coin la structure moléculaire. Je me revois près de cette cheminée en marbre gris, et en voyant ce marbre froid et immobile, je me posais cette question. Est-il possible que dans ce marbre froid, immobile, il y ait des milliards de mondes qui tournent à des vitesses hallucinantes, mondes que je ne pouvais pas voir et qui pourtant existaient? Si donc la Bible parle de ces choses, c'est quel est le livre de celui en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science? Cela se trouve dans l'Épître aux Colossiens, verset 2, chapitre 3, « En qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science ?» Et ces limitations physiques vont nous permettre de comprendre ces aveugles dont nous allons parler cinq soirs. La première question qui se pose est « Qu'est-ce qu'un aveugle ?» Un aveugle, c'est quelqu'un à qui échappent des réalités qui sont évidentes pour d'autres. C'est ainsi que les couleurs et les formes existent, mais elles n'existent pas pour les aveugles. Ils ne peuvent les voir. Et la Bible nous enseigne qu'il y a une cécité spirituelle autant qu'une cécité physique. Il y a des mondes intérieurs qui nous échappent, qui échappent à beaucoup, parce que leur œil intérieur est aveugle. Beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui ne savent même plus s'ils ont une âme. Le domaine de l'esprit leur est fermé. Je me souviens quand j'étais jeune soldat avec les armées d'occupation en Allemagne, je me rendais plusieurs fois par semaine à la cantine anglaise. Il y avait sur le mur de la cantine un poster métallique, probablement apposé par l'armée du salut. Et cette affiche, je l'ai regardée des dizaines et des dizaines de fois, et je ne l'ai jamais comprise. Elle représentait un homme enchaîné, à genoux dans une cellule sombre, qui levait la tête et les bras vers le haut, où se trouvait une fenêtre d'où descendait un flot de lumière. Et dans le faisceau de lumière qui venait vers lui, il était simplement écrit ces mots que je pouvais comprendre. C'était en anglais, mais tellement proche du français. « Jesus saves », c'est-à-dire « Jésus sauve ». J'avais été élevé d'une certaine façon par une maman chrétienne qui me parlait de la Bible. Enfant, j'avais fait, comme on dit, le catéchisme, mon instruction religieuse, et malgré cela, j'ai regardé cette affiche tant de fois sans jamais la comprendre. Et pourtant, toute mon histoire était dans cette affiche. Cet homme enchaîné par ses péchés dans l'obscurité de ses pensées, c'était moi. cet homme qui avait besoin de délivrance qui venait d'en haut, c'était moi. Ce nom qui pouvait me sauver, c'était pour moi le nom de Jésus. C'était très parlant, mais je n'y comprenais rien. C'était la bouteille à encre. J'étais aveugle. La Bible aussi ne me disait rien. J'avais bien essayé de l'ouvrir, essayé de la lire, de la comprendre, mais mes yeux étaient comme fermés, en fait j'étais aveugle. Et la Bible nous dit que des millions d'hommes sont aveugles, même avec leurs titres universitaires. Elle nous parle d'un des hommes les plus érudits de son temps, Saul de Tarse. Quand Saul de Tarse, avec tout son savoir, a rencontré Jésus-Christ sur la route de Damas, il est tombé par terre, il a été aveugle pendant 3 jours, et des écailles sont tombées de ses yeux. Malgré son vaste savoir, il était aveugle. Voilà donc la première question posée. Qu'est-ce qu'un aveugle ? C'est quelqu'un à qui échappent des réalités qui sont pourtant évidentes pour d'autres. La Bible nous parle donc d'au moins 3 aveugles qui ont été guéris par Jésus. Dans Marc 8, 22, l'aveugle de Bethsaïda, une petite ville de Palestine. Dans Marc 10, l'aveugle de Jéricho. Et dans Jean 9, l'aveugle de Jérusalem. Deuxièmement, avec les disciples du Seigneur, nous allons maintenant poser une deuxième question extrêmement délicate. Ils ont dit en parlant de celui de Jérusalem, « Seigneur, pourquoi cet homme est-il aveugle ?» Ils sont allés plus loin. Ils ont osé dire, « Rabbi, est-ce à cause de ses péchés ou à cause du péché de ses parents ?» Si la question m'avait été posée à moi, j'avoue que j'aurais été bien embarrassé pour répondre. Je sais une chose, c'est que ma réponse n'aurait pas été celle de Jésus. Car ces réponses sont toujours étonnantes. Moi, j'aurais répondu, c'est peut-être sa faute, c'est peut-être la faute de ses parents, c'est peut-être les deux. Pour essayer d'expliquer que ça pouvait être sa faute, j'aurais pris le cas de Samson. Samson, l'homme fort de la Bible, mais en même temps le gavroche, le gamin de l'Ancien Testament. Samson, c'est un homme qui a joué avec le péché. Il a cru manipuler le péché, et un jour, il s'est retrouvé comme ces terroristes irlandais qui transportaient une bombe. Elle leur a sauté dans les mains avant qu'ils puissent la poser. Eh bien, Samson a joué avec la bombe du péché, et avant qu'il ait eu l'occasion de s'en débarrasser, le péché lui a sauté dans la figure, et il s'est retrouvé avec les yeux crevés. C'était de sa faute à lui, pas celle de ses parents. Et si il avait quelqu'un à blâmer, ce n'était que lui-même. La Bible est pleine d'exemples d'hommes qui, comme c'est écrit, ont semé le vent et ont récolté la tempête. J'étais un jour dans un hôpital tout près d'ici, à Marchienne, tout près, quelques kilomètres, où il y avait dans une même chambre 4 jeunes éclopés de la moto. C'était de leur propre faute. Témérité, inconscience, goût du risque, de la griserie, de la vitesse, ça les avait amenés là, alors qu'un peu de bon sens et de prudence aurait pu éviter tout cela. Pensez-y. Toute une vie à regretter un instant de folie. Mais il y a plus grave. Si 20, 30, 40 années passées dans un fauteuil roulant peuvent apparaître à un jeune homme comme un cauchemar sans fin, comment décrire une éternité de remords, où les hommes se frapperont la poitrine en disant « c'est ma faute, c'est ma faute ». Oui, dans certains cas, si les hommes sont aveugles, c'est de leur faute. Pour maintenant parler de ses parents ou de la société, moi je me serais servi de la triste loi de la solidarité. Nous pouvons être impliqués dans un accident sans que cela soit notre faute et en subir les graves conséquences. Nous sommes tous solidaires des méfaits de la guerre, même si nous la réprouvons. Nous sommes solidaires de la détérioration du climat moral, comme aussi de la pollution de la planète. Nous sommes solidaires des erreurs des générations passées. C'est la Bible qui le dit. Les parents ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Souvent, avant la naissance de son enfant, la femme refuse de se conduire comme une future mère. Et l'enfant qu'elle porte subit dans son organisme les effets d'une vie trépidante menée tambour battant à coups d'excitant d'un côté et de tranquillisant de l'autre. Un coup d'accélérateur, un coup de frein, un coup d'accélérateur, un coup de frein. Qu'arriverait-il si vous traitiez votre voiture de cette façon-là? On sait aussi que l'alcoolique expose sa descendance à de graves dangers et que ça peut sauter une ou deux générations. En génétique, on sait aujourd'hui qu'un homme, par son genre de vie, peut programmer toute sa descendance. Ça, l'homme n'y pense jamais quand il commet le péché. Affreusement égoïste, il ne pense qu'à lui-même, qu'à son intérêt, son plaisir, son avantage, mais il hypothèque la vie de ceux dont plus tard il aimerait être fier. Et oui, la solidarité dans le péché, c'est une affaire redoutable. Voilà comment, moi, j'aurais répondu à la difficile question. Seigneur, est-ce que c'est lui ou ses parents? Maintenant, je vais vous donner la réponse de Jésus-Christ. Et croyez-moi, elle est tout autre. C'est la meilleure. Le Seigneur n'acquiesce pas à la demande de diagnostic des disciples qui, en tant que tels, ne leur apportera rien. La question des disciples est trop technique. Si elle meuble l'esprit, elle laisse le cœur froid. Et le Seigneur veut leur dire, « Mais non, Jean, ou Pierre, ou Jacques, non, le cas de cet homme n'est pas répertorié à la page 206, Aliéna 12 bis, tome 2 de l'encyclopédie médicale. Ce qui est trop cérébral laisse le cœur trop sec. Il n'y a pas de chaleur dans la question des disciples. Une réponse qui aurait satisfait leur intellect ou qui aurait rempli leur bloc-notes leur aurait laissé le cœur vide. Ils sont négatifs, ces disciples, et on les comprend. Il est toujours plus facile d'être négatif. Jugez de ce que je vais dire. Si un jour vous vous trouvez en société et que la conversation languit, qu'il y a de trop longs silences, il suffit de commencer à parler sur le compte de quelqu'un qui est absent. Et vous allez voir que la conversion va repartir d'un coup. C'est toujours très simple d'être négatif, mais le Seigneur veut du constructif. Alors il va leur ouvrir de nouveaux horizons. Il introduit dans la souffrance humaine une dimension nouvelle, celle de la gloire de Dieu. Maintenant, que quelqu'un soit responsable de l'aveuglement de cet homme, c'est possible. Mais Jésus regarde vers l'avenir et il dit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Et cette phrase, sous une autre forme, Jésus la redira à l'occasion de la mort et de la résurrection de Lazare. La souffrance, la maladie et la mort de Lazare vont tourner à la gloire de Dieu. Voilà une réponse qui bouscule toutes les idées reçues. Eux, les disciples, se sont laissés enfermer dans la philosophie traditionnelle selon laquelle la souffrance est immanquablement et dans tous les cas le résultat du péché. Mais lui, Jésus, nous montre que là même où il y aurait eu péché, Dieu tire le bien du mal et qu'il peut s'en servir pour sa gloire. D'ailleurs, jugez de ce que je vais dire. Eux, les disciples, avec leur bonne santé, ont-ils souvent glorifié le Seigneur? Est-ce que notre société d'abondance est à la gloire de Dieu? la prospérité de notre monde occidental est-elle un hommage au Créateur? La beauté plastique de Miss Monde ou la voix incomparable de la Callas ou de Pavarotti magnifie-t-elle le Dieu des cieux? Dans la plupart des cas, poser la question, c'est donner la réponse. Lazare aurait-il glorifié Dieu s'il n'était pas passé par la souffrance et la mort? Et cet aveugle de Jérusalem serait-il revenu au pied du Seigneur pour lui donner gloire s'il n'avait pas été aveugle? Quelle nouveauté d'apprendre que ce travers de la nature qui vous fait souffrir, cette santé chancelante, souffreteuse, cette solitude pesante, ce souvenir qui vous fait mal, ce chagrin lancinant, ce célibat mal accepté, cet échec professionnel, s'ils étaient livrés entre les mains de Jésus-Christ, il pourrait les remodeler et les refaire à sa gloire. Le passé orageux d'un buveur, où le passé honteux d'un libertin servent à la gloire de Dieu quand ils se repentent de leurs péchés et qu'ils crient à lui pour en être délivrés et qu'ils se laissent trouver par le Seigneur pour être sauvés. Savez-vous que la mort elle-même peut servir à la gloire de Dieu? Reprenez l'histoire de Samson dont j'ai parlé plus haut. Toute une vie de médiocrité a été supplanté par une mort victorieuse, car ce n'est que dans sa mort que Samson a glorifié Dieu. Troisièmement, allons un peu plus loin. Nous allons poser une troisième question. Pourquoi tant d'hommes sont-ils spirituellement aveugles? Il y a plusieurs éléments de réponse. La Bible, parce qu'elle est parole de Dieu, donne les réponses aux questions qu'elle pose. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 4 et verset 3, il est écrit « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, c'est-à-dire Satan, a aveuglé l'intelligence pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Qu'est-ce que ce texte veut dire? Il veut dire qu'il y a dans le monde ce que la Bible appelle un mystère d'iniquité. La Bible nous révèle qu'à l'origine, il y avait un ennemi qui s'est attaqué au premier couple humain en lui faisant miroiter les plus hautes destinées. « Vous serez comme des dieux. » Alors qu'ils ne connaissaient pas la souffrance, qu'ils ne connaissaient que la joie, la paix, le bonheur, enfin, tout ce à quoi nous voulons accéder, il leur a insinué que Dieu n'était pas un Dieu d'amour, qu'il leur cachait quelque chose, et il leur a soufflé « Vos yeux s'ouvriront !» Autrement dit, il leur a suggéré « Vous êtes aveugles, et il y a des choses que vous ne voyez pas, Dieu vous les cache. » Et ils ont cru la parole de l'ennemi, au lieu de croire la parole de Dieu. Nous savons ce qui est arrivé. Ils ont vu certaines choses qu'ils auraient dû ne jamais voir, et leurs yeux ont été fermés sur celles qu'ils auraient dû voir. C'est-à-dire qu'un bandeau a été mis sur leur œil intérieur. Un voile opaque est tombé entre eux et Dieu. Et le résultat est que l'homme est devenu comme un aveugle qui tâtonne et qui ne sait plus où il va. C'est tellement vrai que lorsque l'Éternel Dieu a rendu la première visite à l'homme après son péché, il a dit « Où es-tu ?» Ce n'est pas parce que Dieu ne le savait pas, mais c'est parce qu'Adam ne le savait plus. Et l'homme ne sait ni d'où il vient, ni ce qu'il est, ni où il va. En dehors de la révélation de la parole de Dieu, l'homme ne sait rien, il ne peut rien saisir, rien comprendre, ni rien expliquer, ni de Dieu, ni de l'avenir, ni des âmes, ni de l'au-delà, parce qu'il a un voile sur son œil intérieur. Et la Bible nous apprend que tous les hommes naissent avec ce voile qui s'interpose entre eux et Dieu. Un jour, je me suis rendu dans le Midi, où je devais tenir une série de conférences. Je vous raconte cela pour vous expliquer ce voile qui s'interpose entre nous et Dieu. Nous étions plusieurs dans deux voitures. Nous allions ensemble et arrivés au col de la Croix Haute, au sud de Grenoble, nous nous sommes arrêtés et nous avons convenu de nous attendre dès la première station d'essence, Shell, qui se trouve au bas de la côte, la première station Shell. Elle est si bien située et si visible qu'un aveugle pourrait la voir. Et nous, la première voiture, nous nous y sommes arrêtés, on a fait le plein, et nous étions trois Pères Dieu pour guetter l'arrivée de l'autre voiture, dans laquelle il y avait aussi trois Pères Dieu, pour veiller à ne pas se manquer. Nous avons attendu, puis attendu encore, et attendu toujours, en nous disant, « Mais enfin, mais qu'est-ce qu'ils font ?» J'ai remonté le col, mais en vain. Et nous ne les avons revus que 100 kilomètres plus loin. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ne les a-t-on pas vus? Comment ne nous ont-ils pas vus? Et je me suis souvenu que pendant que nous attendions, qu'on faisait le plein, un convoi de longs camions avec remorque était passé et avait fait écran entre nous et ceux que nous attendions. C'est ce que la Bible nous dit. Le péché s'interpose entre nous et Dieu. Au moment où nous voulons voir Dieu, quelque chose vient faire écran. Aujourd'hui comme autrefois, le Sauveur veut se faire connaître, se révéler à nous, mais quelqu'un vient faire écran. Il interpose le voile du raisonnement, des pensées profanes, des considérations sordides et même des motifs impurs. Il faut résister à ces tentatives de nous empêcher de voir le Seigneur. Et il faut dire comme les Grecs qui sont venus à Philippe, cela est rapporté dans Jean 12, et ils demandèrent avec insistance, « Nous voudrions voir Jésus ». Donc la raison pour laquelle tant d'hommes sont aveugles, c'est qu'il y a un voile qui s'interpose entre eux et Dieu. Une autre raison, c'est que, et c'est la quatrième, c'est que quand un organe n'est pas employé, il s'atrophie. Si un œil n'est pas employé, il devient aveugle. Et la Bible dit de certains hommes, ils ont des yeux pour ne point voir. Et s'étant obstinés à ne pas voir, ce qui crève les yeux, ils en sont arrivés à avoir comme les yeux crevés. Ils ne voient plus. C'est ce qui est arrivé aux homosexuels de Sodome et de Gomorre. Cet affreux péché que l'on tente de déculpabiliser aujourd'hui, comme si c'était un défaut de la nature humaine, la parole de Dieu le met au nombre des pires actions de la dépravation humaine. Non seulement ils ont appelé le mal bien, mais ils sont allés jusqu'à légaliser le mal. Du plus petit au plus grand, ils étaient adonnés à ces affreuses pratiques et ils s'y sont enfoncés jusqu'à vouloir salir le neveu d'Abraham. Aussi le jugement est-il tombé sur eux en deux étapes. Une première fois, ils ont été frappés d'aveuglement au point qu'il est écrit « Ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte où se trouvait justement le neveu d'Abraham. Et la deuxième fois, ils ont péri dans un déluge de soufre. Savez-vous qu'il y a aujourd'hui des millions de gens qui ne voient plus? Ils ne voient plus que l'avortement est un crime, que le flirt est une impureté, que le fichu caractère le mensonge et la mondanité sont des péchés damnables. Ils ne le voient tout simplement plus, car l'œil de leur conscience est devenu aveugle. Et la troisième raison pour laquelle les hommes sont aveugles, c'est que beaucoup veulent le rester volontairement. On a de la peine à s'imaginer que ce soit possible. Et pourtant, Jésus l'a dit. Le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Oui, il y a des gens qui ont peur d'être guéris. Ils ont peur d'être sauvés. Ils ont peur d'aller au ciel. Je me souviens de prédications que j'ai faites dans la région parisienne. Un soir, un homme relativement jeune, c'était à Conflans-Sainte-Honorine, un homme relativement jeune est venu assister à la conférence. À la sortie, il a exprimé sa joie d'être venu, d'avoir entendu ces choses, et il a promis qu'il reviendrait le lendemain. Mais le lendemain, il n'est pas revenu. Et comme il ne revenait pas le lendemain, on est allé lui demander pourquoi il n'était pas revenu. Et il a dit, incroyable, il a dit, « Non, je n'y retourne plus, parce que je sais très bien que si j'y retourne encore une fois, je vais me convertir. » Il était sûr que s'il revenait, il allait être sauvé. Et il ne voulait pas être sauvé. Maintenant, la preuve par excellence que les hommes sont aveugles se découvre en face de Jésus-Christ. La Bible dit, je répète donc ce texte de 2 Corinthiens 4, « Ils n'ont pas vu briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. » La Bible dit encore, « S'ils l'avaient connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. » Jésus, ce Seigneur de gloire, est venu. Les hommes les plus lucides l'ont classé dans la lignée des philosophes et des grands hommes, mais sa divinité leur était voilée. Sa mission leur est restée incomprise. Et pourtant, quand on lit les évangiles, on voit que les œuvres qu'il a faites ont fait éclater son caractère de fils unique de Dieu. L'aveugle de Jérusalem l'avait bien compris quand il a dit « On n'a jamais entendu dire qu'un homme ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Jamais Bouddha n'a ouvert les yeux ni donné le salut à un oriental. Jamais, à la fin de sa vie, il disait « Je cherche encore la vérité ». Jamais Confucius n'a redonné la vue à un Chinois. Jamais. Jamais un arabe n'a recouvré la vue au nom de Mahomet, jamais, jamais philosophie humaine, occidentale ou autre, n'a tiré un homme de sa tombe, ni donné le salut à un pécheur. Mais Jésus-Christ l'a fait, et s'il l'a fait, ce n'était pas pour nous éblouir, ce n'était pas pour nous jeter de la poudre aux yeux, non. C'était pour nous ouvrir les yeux sur des réalités beaucoup plus grandes, et c'était aussi pour authentifier sa mission. Si le Seigneur a sorti plusieurs hommes de leur cécité, c'était pour nous faire voir et nous faire comprendre que des ténèbres plus épaisses de la mort éternelle, il pouvait aussi nous sauver. Car ce même Sauveur qui, d'un seul geste, d'un mot, a redonné la vue à ces trois hommes, peut d'un seul mot nous redonner la vie, nous redonner l'espérance et nous donner le salut. Il m'a donné cela, et cela n'a pas duré que l'espace d'un éclair. Ça a duré de façon permanente dans ma vie, quand je me suis tourné vers le Seigneur. Mon père, qui n'était pas chrétien, dit « Nous nous retrouverons dans un an ». Il voulait dire par là que dans un an, cette fantaisie m'aurait passé. Mais cela fait si longtemps que ça dure. C'est-à-dire que ce que le Seigneur donne, ce n'est pas un frisson qui vous passe le long de l'échine dorsale et qui ne laisse aucune trace durable, mais c'est au contraire quelque chose qui dure toute la vie jusque dans l'éternité. Il a sauvé des brigands. Et ils ont été sauvés. Il a sauvé des prostituées, et sauvées elles l'ont été. Il a même sauvé des honnêtes gens. Et Dieu sait que s'il y a des gens difficiles à sauver, ce sont les honnêtes gens, parce qu'ils ont de la peine à reconnaître qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont besoin de salut. Aujourd'hui encore, le message de l'Évangile produit les mêmes effets qu'autrefois. À ceux qui avouent leur aveuglement, qui avouent qu'ils sont pécheurs et qui demandent le salut du ciel, l'Évangile reste la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. Dans ce début d'un nouveau siècle, un nouveau millénaire même, des marginaux se tournent vers le Seigneur et leur contestation destructive devient constructive. Des drogués, abandonnés sans espoir par les éducateurs, la médecine, les psychiatres, se tournent vers Jésus, et sans explication possible, la dépendance et les effets de la drogue s'estompent miraculeusement, et ils partent suivre le Seigneur. Aujourd'hui encore, des racistes, aveuglés par la haine, acceptent Jésus-Christ dans leur cœur, et ils se mettent à aimer leurs frères d'une autre race. Aujourd'hui, des chercheurs de vérité se tournent vers le Seigneur et ils reçoivent des certitudes qu'aucune philosophie au monde n'a pu leur apporter. Tout cela a été rendu possible non seulement par la puissance du Seigneur, mais encore et surtout par le sacrifice de sa vie. Savez-vous que pour nous rendre la vue, nous rendre la vie, il a fallu que Jésus-Christ meure sur une croix. Savez-vous que la mort de Jésus-Christ sur la croix n'est pas un accident de l'histoire, mais qu'elle était au centre des plans de Dieu? Pourquoi? Parce qu'il fallait que nos entraves, nos misères, nos désobéissances, nos péchés, c'est-à-dire tout ce qui, provoquant l'aveuglement, nous empêcher de voir le royaume de Dieu et à plus forte raison d'y entrer. Il fallait que tout cela soit ôté. Et toutes ces misères, le Seigneur n'est pas venu pour les dévoiler seulement. Cela ne nous servirait à rien. Cela nous écraserait davantage. Le Christ n'est pas venu nous dire « Voyez quelle belle vie est la mienne, faites-en autant !» Si c'était là la condition de salut, cela nous conduirait au désespoir. Nous ne sommes même pas capables de suivre la loi de l'Ancien Testament. Comment suivrions-nous la loi d'amour du Nouveau Testament? Non, le Seigneur n'est pas venu pour nous dévoiler le péché seulement. Il est venu pour nous en délivrer, pour le prendre à son compte. Et il l'a fait dans sa mort sur la croix. Savez-vous ce qui s'est passé à la croix? Je vais vous le dire. Pendant qu'il était là, pendu par les mains et les pieds, et qu'à midi le soleil est parti, la Bible dit que Dieu a pris les péchés des hommes, et il les a mis sur son Fils. N'oublions jamais ceci. Nos péchés, mes amis, nos péchés sont quelque part. Ou bien ils sont sur notre tête, ou ils sont sur la tête de Jésus-Christ. Puis-je vous poser une question? Où sont vos péchés? Plaise à Dieu que vous reconnaissiez qu'ils ont été mis sur la tête de Christ. La Bible dit que la mort, c'est le salaire du péché, et bien qu'il n'ait commis le moindre péché, il est mort. C'est donc qu'il ne mourrait pas pour lui-même, mais pour ceux qu'il remplaçait, pour ceux dont il prenait les péchés à son compte. Dans un acte d'amour volontaire duquel il a dit « Personne ne m'ôte la vie, je la donne de moi-même », il s'est laissé pendre sur la croix des condamnés. Il est entré dans la nuit de midi pour que nous entrions dans la lumière du royaume de Dieu. Là, sur la croix, son cœur s'est arrêté de battre pour que le nôtre batte à un nouveau rythme. Là, sur la croix, ses yeux se sont éteints. son regard s'est figé dans la mort, pour que la lumière du ciel de Dieu vienne illuminer notre vie. Il est descendu dans la nuit de la mort, et si le troisième jour il en est sorti vivant, c'est pour que vous puissiez, étant vivant, le recevoir dans votre cœur. Car ce n'est pas un sauveur mort que nous prêchons, c'est un sauveur qui peut avoir de l'influence sur votre vie. Nous croyons en un sauveur mort et vivant, qui est Dieu, pleinement Dieu. Et parce qu'il est vivant et pleinement Dieu, il peut venir vivre dans un cœur et y opérer le même miracle qu'il a opéré chez ses aveugles, afin que vous aussi vous puissiez témoigner à la face du monde, de vos amis, de vos voisins, cette expérience ramenée à une seule phrase. Je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois. Le but de Dieu, c'est de vous sauver, et puis de vous envoyer dans le monde, auprès des gens que vous côtoyez, et de leur dire, j'étais aveugle, maintenant je vois. Mais, ayamé, mais avant de dire cette phrase aux autres, il faut la dire à Dieu. Il faut lui dire, Seigneur, je sais une chose, je suis aveugle. Êtes-vous prêt à dire cette phrase? Quand ce jeune homme du Nouveau Testament, le fils prodigue et révolté, revenu à la maison, il y est revenu avec des mots qui voulaient dire la même chose et que je paraphrase ici. Père, j'étais aveugle, j'ai pris le mauvais chemin, et la preuve que j'étais aveugle, c'est que j'ai cru que c'était le bon, et c'est cet aveuglement qui m'a conduit à mes cochons. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Alors, êtes-vous prêts à dire, je suis aveugle? Seigneur, je ne vois pas, je ne sais pas d'où je viens, ni qui je suis, ni où je vais. Seigneur, je tourne en rond, je suis noyé dans mes problèmes, je ne trouve pas la porte de ton ciel. Seigneur, je suis aveugle, mais je veux voir. Le voulez-vous? Si oui, venez au carrefour de la croix. C'est là que on se rencontre avec Dieu, car il est écrit, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Si tout est obscurité, tâtonnement de notre côté, tout est lumière et certitude du côté de Dieu. C'est là que sa main est tendue vers nous, et cette main qui vous ne lâchera plus, vous pouvez la saisir en cet instant, dans cette minute où nous terminons notre rencontre. Alors nous nous inclinons, nous nous recueillons dans la prière. Seigneur, tu nous as parlé ce soir, tu as parlé à notre intelligence, à notre cœur, à notre conscience, tu nous as révélé notre aveuglement, mais tu nous as révélé aussi ta puissance. Tu peux guérir, tu peux sauver, tu donnes des certitudes. Et ma prière personnelle envers tous ces amis qui sont ici devant moi, jeunes ou moins jeunes, c'est qu'aujourd'hui ils entrent dans la délivrance, qu'ils recouvrent la vue, et que pour la première fois, ils découvrent qui ils sont et qui tu es, et comment tu peux les sauver. Seigneur, fais descendre ton ciel de lumière dans leur cœur. Fais-le maintenant, aide-les à se repentir, à ouvrir leur vie et pénètre chez eux pour que tout change à partir de ce soir. Nous te le demandons tous ensemble et au nom de celui qui est la lumière, Jésus, ton Fils, notre Sauveur. Amen, Seigneur. Amen.